France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui a grandi avec Internet mais qui a refusé d'y rester enfermé. Quelqu'un qui a fait rire des millions de personnes avec un téléphone, une chambre et un sens aigu de l'observation avant de décider que ce n'était pas suffisant. Just Riad, c'est l'une des premières grandes stars des réseaux sociaux en France, mais surtout l'un de ceux qui ont très tôt voulu dépasser l'étiquette. Créateur, acteur aujourd'hui, il construit une trajectoire à contre-courant, patiente et réfléchie. Après À la Belle Étoile, il revient au cinéma avec N121, Bus de nuit, un film tendu où il incarne un jeune homme qui a tout à perdre, enfermé dans un bus. On va parler du film évidemment, de rire, de pression, des haters, de responsabilité, de famille aussi. Bref, on va essayer de comprendre qui est Just Riad aujourd'hui, au-delà des vues, au-delà des likes. Just Riad est avec nous, à La Régulière.
France Inter. À La Régulière. Mehdi Maizi.
Riad, comment ça va?
Mais incroyable l'intro que tu viens de faire là.
Non, ça va, tranquille.
Non mais là tu l'as préparé à combien de temps le...
3 jours. Vraiment 3 jours où je pense à toi, le week-end, je suis dans un mood, j'ai tout regardé, j'ai tout revu.
Non, c'était fluide, hein, c'était beau, c'était...
Comment tu vas?
Ça va très bien et toi?
Je vais te poser une question compliquée, un peu relou.
Ok.
Quand on te demande ce que tu fais dans la vie, tu réponds quoi?
Ça c'est vrai que c'est une question en fait... Ouais, tu... En fait, je dis ce que les gens veulent entendre en vrai.
Ok.
Si je vois, c'est un mec, voilà, il me connaît par rapport aux vidéos, je dis ouais, je fais des vidéos. Si c'est quelqu'un, je sais pas. Mais tu sais qu'il y a une question qu'on m'a posée en avant-première là. Tu sais, parce que là, en ce moment, on fait des avant-premières
oui,
pour le
par
film.
Par rapport au film, bien sûr.
Et il y a un mec qui m'a demandé, mais toi, tu te considères acteur ou pas? Et tu sais, c'est une question qui est.
Presque un peu méprisante, tu penses enfin...
Non, pas méprisante, justement, ouais. Parce que c'est une question que je me pose aussi.
Ok, d'accord.
Moi-même, parce que en vrai. J'ai du mal à... Genre, tu me demandes est-ce que je suis acteur et tout, ça me fait bizarre de dire oui.
Ok. Parce que pourquoi? Parce que t'as pas fait de formation pour ça? Parce que ton parcours, il est atypique, donc tu te dis que comme t'as peut-être pas fait le cours Florent ou je ne sais quoi, c'est un peu compliqué pour toi de te définir comme tel?
Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça, mais c'est aussi que tu... Tu sais, quand tu dis que t'es acteur, tu te mélanges à plein d'autres noms. Et c'est un peu peut-être des fois trop pour toi, tu vois.
Ouais.
Tu dis, ouais, t'es la même catégorie que, je sais pas, les DiCaprio, les trucs comme ça.
Alors, après, il y a différents acteurs.
Ouais, voilà.
Il y a des gens moins bons que DiCaprio qui se disent acteurs, hein, tu sais.
Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail avant que moi, je me considère vraiment comme acteur à 100%.
On va en parler de toute façon après du cinéma, mais vu qu'on aborde ce sujet-là, quand t'as fait À la Belle Étoile, il y a eu des retours très positifs sur toi, justement, en tant que comédien, indépendamment du film, etc., qui d'ailleurs a été plutôt apprécié. Mais toi, en tant que comédien, il y a vraiment une, presque une surprise même des gens sur il est bon au cinéma. Est-ce que toi, ça t'a donné de la force, le fait de dire « Ok, peut-être que t'as du mal à te considérer comme acteur, mais là, tu le fais, et les gens sont globalement positifs là-dessus. »
Ouais, et ça m'a assez surpris et étonné, parce qu'on connaît un peu comment les gens réagissent quand des créateurs de contenu ou des gens qui viennent pas du cinéma vont faire des films.
Il y a une méfiance.
Il y a une méfiance, et je les comprends, parce que c'est quand même un... Tu sais, c'est le 7e art, quoi, c'est le cinéma... Et encore plus aujourd'hui, il y a beaucoup de comédiens qui n'arrivent pas à avoir des rôles, à tourner. Donc ils se disent peut-être, ouais, ces gens-là qui viennent d'Internet, ils ont plus de facilité que nous, donc ils vont tourner plus facilement, ils vont avoir des rôles que nous, on n'a pas. Et il y a des fois, c'est peut-être vrai. Des fois, c'est peut-être vrai, il y a ce truc de privilège où, voilà, parce que cette personne-là, elle est déjà connue, on voit déjà à quoi elle ressemble, on voit sa tête, on se projette plus facilement. Mais il y a aussi un travail que... Moi, personnellement, je fais. D'autres créateurs de contenu qui font du cinéma, tu vois, on fait.
Ouais.
Vous avez passé des castings, travaillé des rôles. Ça tombe pas comme ça, tu vois. Ça tombe pas comme ça. On vient pas toquer à ta porte. Ah, j'ai un film pour toi. Il faut que tu sois là pendant 2 mois tout de suite. Et non, t'as des tests, t'as des castings, t'as des essais. Et non, quand, du coup, La Belle Étoile était sortie, moi, j'étais très content parce que je me suis donné à fond. Je me suis donné à fond et je me souviens que c'était pas simple. Parce que même sur le tournage... Il y a des, je dirais pas qui, mais il y a des gens de l'équipe, etc., qui m'ont fait ressentir un peu que voilà, j'étais
pas
là.
T'étais pas forcément
mais...
à ta place.
Ouais, genre en gros, j'entendais des phrases.
Ah ouais?
Ouais, clairement, les gens se cachaient pas. C'est des techniciens, ils sont là, ils parlent entre eux, ils rigolent, ils chambrent. Mais moi, c'est des trucs que j'entends. C'est des trucs, ouais, ils ont pris un TikToker pour le rôle principal et tout. Ah, ouais, ça... Et moi, justement, c'est le truc qui m'a boosté.
Ok.
Parce que je me suis dit, ok, je vais leur montrer que je suis pas là par hasard et que j'ai travaillé pour ça. Et à la fin, Et ça, j'avais ramené ça dans une émission, mais genre à la fin, ils m'ont tous fait des petits mots dans le scénario du film. Des petits mots, genre merci de t'être donné à fond.
Ils ont senti qu'il y avait eu du travail et que t'avais joué le jeu à fond.
Ouais.
Est-ce que, parce que tu parles de ça, est-ce que t'as senti que parfois on t'appelait pour les abonnés, justement, tu sais, parce que au-delà de ton talent potentiel, parce que juste t'es très suivi sur les réseaux et que c'est d'abord pour ça qu'on t'appelle, indépendamment même de ce qu'on peut penser de toi et de tes qualités.
Ouais, il y a plusieurs. À plusieurs reprises, ça je l'ai déjà senti, mais je le fais comprendre directement aux gens, aux réalisateurs, aux producteurs. Je leur dis que c'est pas des mathématiques, quoi.
Ouais.
C'est pas parce que tu ramènes quelqu'un qui a 5 millions, 6 millions d'abonnés que tu vas faire 5 millions, 6 millions d'entrées.
C'est pas aussi pas simple que ça, ouais.
C'est clair. Mais ça, les gens, je pense, ils commencent à le comprendre.
Ouais. Voilà. Alors, évidemment, on va parler de cinéma aujourd'hui, mais toi, je l'ai dit, t'as commencé sur les réseaux, et quand t'as commencé, ça ressemblait notamment à ça.
T'as eu le bac.
Oui, je t'ai dit, j'ai bac S, bac M. J'ai tous les bacs, moi.
Attends.
Si, je refais tous les bacs, tu te rappelles pas? Même le bac E, qui n'existe pas.
C'est quoi les bacs que t'as eu? Rappelle-moi, c'est quoi les bacs que t'as eu, vas-y.
Bac M, mariage. Ça, j'ai rajouté, tu vois. Bac E, enfant. Bac S, souffrance. Et dernier bac que j'ai, c'est bac A. Tu connais bac A? Accouchement. Tu connais pas, tu connaîtras jamais. Voilà.
Comment ? Ça, c'est un extrait qui date maintenant.
Ouais,
quelques
ça
années.
Date, ouais.
Comment, toi, tu décides de prendre ton téléphone et de te filmer toi, mais de filmer aussi ta famille, vraiment des membres très proches de ta famille ? Est-ce que c'est naturel pour toi, au début ?
Au début, mes parents, ils étaient pas au courant que je faisais des vidéos. Tu vois, c'est des trucs que je faisais dans ma chambre, etc. Tu sais, mes parents n'ont pas accès aux réseaux sociaux à l'époque et je filme des trucs, je les balance et voilà, au fur et à mesure, il y a un truc qui prend, il y a un engouement. Et après, je décide un peu de les inclure dans cette aventure, bon, sans les montrer évidemment, tu vois, juste avec le son de leur voix. Mais je trouvais ça marrant parce que c'est des parents et leur comportement, des fois leurs phrases, des trucs qui sortent de leur bouche, bah, ça résonne chez plein de gens. Et j'ai trouvé ça hyper... En fait, ouais, c'est mes parents, les vrais restas.
T'as toujours été à l'aise, toi, avec ça, avec le fait de te montrer, de faire des blagues. Est-ce que quand t'étais petit, t'étais le mec marrant, ou c'est plutôt les réseaux qui t'ont donné cette facilité-là?
Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Non, parce qu'en vrai, au lycée, j'étais un... Je voulais me rendre un peu intéressant aussi.
Ouais.
Je voulais un peu divertir. T'sais, j'étais un peu le mec qui se faisait virer, ou je me faisais un peu... T'sais, je prenais des heures de colle, ou on prenait mon carnet et tout, parce que je sentais que là, fallait faire cette blague-là.
Ouais. Tu faisais l'intéressant,
voilà,
c'est ce qu'on dit.
Je voulais faire... vraiment divertir la classe. Une heure, c'est long. Vas-y, je sais qu'à ce moment-là... Et je pense que les vidéos, en fait, c'était vraiment ce que je faisais, je pense, en cours. Bon, un peu plus développé, plus poussé.
Bien sûr, ouais.
Mais du coup, sans sanction, tu vois.
Et quand tu publies ça sur Facebook à l'époque et que ça marche tout de suite, que ça fait des millions de vues, est-ce que tu te dis que ça peut être ta carrière? Est-ce que tu y penses au début? Parce que ça allait vite, moi, j'ai l'impression, en tout cas, quand je te découvre, que ça allait vite.
C'est vrai que ça a explosé assez rapidement pour moi. Mais à cette époque, non, quoi, 2017, 2018, il n'y avait pas vraiment de... Tu pouvais pas te projeter
sur une carrière.
Vraie carrière. Parce que déjà, pour parler de carrière, il faut la monétisation. Tu vois, comment tu gagnes ta vie avec ça? Il n'y avait pas vraiment, à l'époque, des gros partenariats ou des grosses collaborations que tu peux faire avec des marques... comme aujourd'hui.
T'as commencé à gagner ta vie beaucoup plus tard, toi, finalement, grâce au réseau?
Je crois que j'ai commencé à gagner de l'argent. Parce que moi, au début, j'ai refusé tous les trucs un peu de Snap, vu les collabs pour les fast-food, etc., les trucs comme ça. J'ai pas trop fait. Mais c'est vraiment, je pense, 2 ans après. Mais je crois que j'avais déjà plus d'1 million d'abonnés. Hein.
Oui, donc pendant 2 ans, t'avais 1 million d'abonnés, prenais 0 euro, globalement.
0 euro. Et j'habitais chez mes parents, donc ça va.
Oui, ok. Oui, mais quand même. Ouais. Mais en tout cas, t'es passé à côté de certains contrats potentiels.
Mais je pense pas que c'était des gros contrats. On parlait peut-être de, je sais pas, 150 euros pour un truc, tu vois.
Ok.
Mais c'est vrai que c'était... Ouais, tu me poses cette question en 2018, tu me dis, l'influence ou ça va évoluer comme ça.
Tu ne t'aurais pas imaginé ça.
Impossible.
Est-ce que maintenant, tu l'as dit sur les réseaux, maintenant t'es papa, est-ce que ça change quelque chose dans ton rapport aux réseaux? Moi, d'un point de vue extérieur, j'ai pas forcément l'impression.
Ouais.
Je sens pas forcément que tu te brides. Enfin, il y a forcément une évolution par rapport au début parce que tu prends de l'âge aussi.
Ouais.
T'as plus le même âge.
C'est plus ça.
Mais
je
j'ai
pense.
Pas l'impression que c'est forcément que ça a changé quelque chose chez toi.
Non.
Enfin, évidemment, ça a changé plein de choses, j'imagine, dans le privé. Mais publiquement, ça a pas forcément changé.
Ouais, non, parce que y a pas, genre, c'est pas de. Enfin, mon enfant, c'est pas une source de. Genre, je vais pas créer du contenu avec mon fils, tu vois. Non, je pense que c'est, ouais, comme tu as dit, c'est plus avec l'âge. Du coup, maintenant que mes contenus ils évoluent et je me vois moins faire certaines choses, etc. Mais non, avoir un enfant, je pense, dans la vie.
Évidemment,
pour tout le monde,
des choses,
ça, ça stabilise, ça apporte un peu un socle, un truc où tu dis, ok, maintenant je fais tout ça pour ça, il y a lui qui est là. Et ça cadre vraiment tout. Même si j'avais déjà un cadre. Mais non, dans ma création de contenu, même dans. Non, ça n'a pas trop changé.
Okay. Bon, on est avec Josriel en tout cas jusqu'à 23h et on va bientôt, bien sûr, pardon, parler du film N121 Bus de nuit, mais avant ça, on va s'écouter un petit morceau. Est-ce que tu connais le rappeur suisse Makala ?
Makala, bien sûr.
C'est vrai ou pas ?
Ah oui, si, j'ai entendu. non, mais si. Attends.
C'est pas une question pèse.
Si,
hein.
Non. J'ai découvert il y a quelques semaines ou il y a un mois, il a sorti une punchline de fou. Il y a que des femmes mariées qui me draguent. Je suis quoi, sur le Seigneur des Anneaux.
Exactement.
Et en fait, je suis tombé sur cet extrait-là. Je dis attends, mais c'est qui ce
exceptionnel
malade.
Tout à fait.
Je suis parti écouter.
C'est sur le morceau Hotel Yotsuya. Et il vient de sortir un EP, enfin un projet de 8 titres ce vendredi. Et il y a un morceau qui est presque encore plus fort que le morceau que tu viens de citer. C'est le morceau Loketo. Et je propose qu'on l'écoute tout de suite.
Avec
après,
plaisir.
On continue à parler avec Josriad.
Fais ta vie en fête, mata. Petit quant à position et kata tout distraction et yété.
Juste pour me rappeler les bases, non. Depuis jour là, mon nom de famille est devenu mon blaze. papa s'expulse de là. Mais il espère tourner au quartier. 2026, ils y construisent un bat qu'à mon place.
On a grandi.
C'était Makala avec le morceau Loketo. Tu valides celui-là aussi?
Ouais,
ou pas?
Il est validé celui-là.
Ouais, validé par Jotria, notre invité, jusque 23h.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
Et Jotria, tu es là notamment pour la sortie du film N121, Bus de nuit, un film de Morad Aissaoui. Comment déjà le film est arrivé à toi? Tu disais que justement en début d'interview, les projets tombent pas comme ça, voilà, du ciel. Tu passes des castings. Comment ça s'est passé sur ce film-là?
Sur ce film-là, Mourad, j'en parlais avec lui. En fait, il m'avait repéré déjà de base sur les réseaux. Il avait, en fait, ce film-là, je crois que ça fait vraiment plus de 5 ans qu'il est en
préparation,
écriture, trouver les bons comédiens, qui va aller avec qui, etc. Et en fait, il m'avait repéré sur les réseaux. Il s'est dit, ah, ce mec-là, je le visualise bien dans le personnage, etc.
Il a une gueule.
Ouais. et en fait, quand, quand À la belle étoile est sortie, une des productrices, Sandra Karim, avait vu le film À la belle étoile et elle m'avait parlé à Mourad. Du coup, est-ce que, par exemple, moi, j'irais bien dans le projet et tout. Et je lui ai dit, mais en fait, j'avais déjà pensé à lui. Et du coup, je viens, je passe les essais, casting. Ça le fait, ça marche bien. Et après, il fallait trouver aussi les autres comédiens. Donc, j'ai passé aussi les essais avec Bakary et Gaspard. Et là, c'est comme ça que tout s'est un peu goupillé. Hein.
Est-ce que le concept du film aussi, donc on le rappelle, c'est vous êtes dans un bus. Ouais. C'est un vrai thriller, en fait. C'est un thriller. Est-ce que ça t'a excité aussi de faire quelque chose de très différent, même aussi de loin de la comédie, ce pour qu'on te connaît. Est-ce que ça t'a attiré aussi d'aller dans ce registre-là?
Mais carrément. Parce que moi, quand je reçois le scénario, on m'explique un peu brièvement. Tu sais, genre, ouais, c'est un film qui se déroule dans un bus, etc. Mais j'ai dans un bus, c'est-à-dire j'ai le scénario. En fait, je vois que c'est vraiment un huis clos. Ouais. Bon, au début, ils sont pas dans un bus, mais
très vite, c'est ça.
Très vite, dès qu'ils rentrent, il se passe des choses à l'intérieur. Et bon, ils peuvent pas sortir. Et là, je me dis ah ouais. Et plus je lis le scénario, plus je me dis j'ai vraiment envie de faire ce film. C'est un truc qu'on voit rarement en France, des projets, des projets comme ça. Et c'est un film où je suis pas tout seul, où il y a beaucoup de comédiens qui sont là. On est 13 au total au quotidien dans le bus. Et moi, ça me plaît de faire ce genre de truc où je suis pas tout seul. Et c'est un truc choral où tous ensemble, on est là, on donne tout pour faire un beau projet comme celui-là.
Est-ce que tu t'es reconnu dans le personnage où il...
Ouais. Et Mourad, il nous l'a dit. En gros, quand il a fallu choisir les comédiens, il fallait prendre des gens qui n'étaient pas trop non plus éloignés des personnages pour faciliter un peu aussi l'emboîtement un peu de tout ça. Mais ouais, je me reconnais un peu dans Aïssa. Hein.
Dans quoi?
Je pense dans le fait que je veux que tout le monde s'en sorte à la fin. Il y a le personnage de Bakary qui est un peu plus, réactif.
Ouais.
Ça veut dire que dès qu'il se passait quelque chose pour lui, ça doit partir au quart de tour, etc.
Peut-être brûlé, peut-être. Ouais.
Et t'as le personnage de Gaspard qui est un peu le mec entre les deux, tu vois. Moi qui veux à chaque fois calmer, apaiser les tensions, t'es que tout le monde vraiment s'en sorte, même si c'est une situation qui nous dépasse, mais arranger les choses au maximum. Je pense que j'aurais pu être ce mec dans le bus.
C'est marrant parce qu'en fait, depuis qu'on parle, là, t'es seul aujourd'hui. Ouais. Avant qu'on commence l'émission, tu m'as dit oui, je suis avec d'autres comédiens, j'aime bien faire de la promo avec d'autres. On sent aussi que t'as pas envie de prendre la couverture uniquement pour toi. Mais même, j'ai l'impression, même plus globalement, c'est quelque chose qui te caractérise un peu, c'est que t'es très exposé sur les réseaux, mais c'est pas quelque chose avec laquelle t'es complètement à l'aise, j'ai le sentiment.
Moi, je trouve que il n'y a pas... En fait, les grandes choses, les belles choses se font pas juste avec un seul homme ou un seul acteur. En fait, c'est un travail d'équipe. En fait, tout ce que tu fais dans la vie, et ça raconte aussi l'histoire du film, c'est que, bon, tout seul, ok, tu peux faire des trucs. Tout seul, ouais, tu peux faire un coup d'éclat, tu peux... Mais à plusieurs, tu peux faire tellement beaucoup plus de dingueries. Et tu peux tellement encore plus marquer l'histoire à plusieurs Et si tout le monde a la même énergie et va dans la même direction, tu peux faire des trucs incroyables.
Bon, puisqu'on parle du film, je pense qu'on écoute un extrait de la bande-annonce.
La porte, s'il vous plaît.
Bonsoir, merci, monsieur. Frérot, lâche l'affaire, elle veut pas de toi en tête.
Putain, regardez un peu. Regarde ton mec.
Mais ça va pas, non? Vous n'avez pas juste demandé poliment, elle aurait bougé le sac.
Excuse-moi, c'est le bus de ton père?
Et toi, c'est le bus de ta mère, je comprends pas.
Cassez-vous, Gilles! Gilles!
Qu'est-ce qui t'arrive, là, lâche-moi?
Ça va trop mal finir, cette histoire.
Y'a pas de eux! Y'a pas de nous! On est tous dans la même galère!
On a tous vu ce qui s'est passé. Personne ne va nous croire.
Est-ce qu'aussi le sujet du film, c'est au-delà du côté thriller, il y a aussi presque même un aspect même social, même politique dans le film. Est-ce que ça t'a attiré, ça aussi?
Moi, quand j'ai lu le scénario, dans ce bus-là, j'ai vu la France, en fait.
Ouais.
J'ai vu la France de tout type, toute ethnie, n'importe, toutes les religions. Vraiment, en fait, le bus de nuit, je pense que t'en as déjà pris, tu vois. C'est un lieu assez spécial, parce que tu sais pas vraiment qui t'as en face de toi, est-ce que les personnes ont vécu, ou leur background, ou leur truc, mais tu sais, voilà, c'est des gens qui veulent rentrer chez eux, ou aller au travail, ou voilà, mais il s'est passé des choses dans leur vie. Et en fait, dans ce film-là, en fait, tu découvres un peu l'histoire et tout ce qui se passe derrière chaque personnage, et pourquoi tel gars est énervé, pourquoi tel gars réagit comme ça, pourquoi telle personne est dans son coin. Et... c'est ça la question.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Non, mais sur l'aspect social, voire même politique du film. En fait, tu dis que globalement, ce bus-là, il représente la France actuelle, toutes ses composantes, toutes ses sensibilités. C'est en ça. Fait. T'as souvent pris, toi, le bus de nuit?
Ouais, de ouf. Ouais. Oh, le noctilien, purée, à Gare de Lyon, pour rentrer chez moi, bien sûr, ouais. Donc, quand j'ai commencé à faire des vidéos, c'était ça. Moi, je traînais toujours dans Paris. J'étais du 77.
Ouais.
Donc, erreur A. Et quand il n'y a plus de RER A, ouais, c'était noctilien fort.
Ça dépend, il y a le RERD aussi, le 77, si tu vas, ça dépend de où.
Moi, j'allais à Val d'Europe.
Ah oui, moi j'ai habité à Melun un moment.
À Melun
faisais, ouais.
Ah ouais, Melun.
Tu faisais tout le RERD. Melun, Creil.
Ah ouais, Melun, Melun, c'est Aury-la-Ville.
Melun, Aury-la-Ville, ouais. C'est une autre époque.
Ouais. Non,
autre
époque. Le noctilien, ouais, c'est... Ah, c'est des beaux souvenirs.
C'est un délire.
Les meilleurs moments, c'est quand ils éteignent les lumières et que t'as que les LED.
Ah, c'est presque beau, là.
Ah,
ça devient presque poétique.
En fait, t'es même pas dans un bus. Tu dis, je suis dans un Airbus, tu vois.
Pour Just Regard est avec nous jusque 23h. On a parlé avant le cinéma, bien sûr, il y a une autorité qui naît sur Internet, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, de percer aussi jeune? T'étais très jeune, on l'a dit.
Ouais.
Est-ce que c'est quelque chose... Évidemment, c'est cool, hein, t'es connu. Au bout de 2 ans, tu commences à faire un peu d'argent, ouais, etc. en faisant des choses qui te plaisent. Aujourd'hui, t'es aussi une chaîne YouTube à succès, il faut le dire. Bref, t'as fait beaucoup de choses. Mais mine de rien, c'est arrivé très tôt. Est-ce que ça a été compliqué à gérer, ça? Tu sais, le fait de cette espèce de notoriété, les gens qui, en plus, quand t'es connu sur les réseaux, les gens ont l'impression que t'es leur ami.
Ouais.
Donc quand ils t'interpellent peut-être pas comme une star de cinéma,
ouais,
mais comme leur pote, sauf que t'es un pote connu. Donc ça, comment tu gères ça?
Ça, c'est vrai, ça. Mais dans ce que tu dis, c'est grave vrai sur les gens qui sont un peu beaucoup trop à l'aise,
ouais,
quand ils viennent te voir. Mais je pense que c'est... Tu sais, des fois, je me mets à la place des gens, je me dis... En vrai, peut-être que j'aurais fait pareil.
Mmh. Ouais.
Tu vois, c'est un gars que tu vois tous les jours sur ton téléphone, t'as l'impression de le connaître.
Il
pour
parle
de vrai.
Comme toi, il a le même ton que toi.
C'est ça, tu vois, c'est pas comme si je suis pas DiCaprio. C'est-à-dire que moi, je suis tout seul quand je marche dehors, je suis tranquille, j'ai pas 4 agents de sécu, y a pas un portail pour venir me voir. C'est du direct. Mais non, je trouve ça bien. Après, ce que tu dis sur est-ce que c'était difficile, etc. Moi, je trouve que j'ai eu de la chance, entre guillemets, de percer en 2018-2017, ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est dur. Hein.
Pourquoi c'est dur?
Aujourd'hui, c'est dur parce qu'il y a tellement de gens qui percent comme ça du jour au lendemain. Tu vois leur tête, ils créent une ref, ils buzzent 2 ans après. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et ça fait peur.
Tu penses que tu aurais eu plus de mal à durer si tu avais percé aujourd'hui qu'en 2018?
Ah ouais, ça fait peur. Enfin, aujourd'hui, en fait, tu... Je pense, hein, là, dans ma tête, je suis en train de me faire le film si j'avais percé aujourd'hui.
Ouais.
Tu perces. On te met vite, rapidement dans un truc où t'es à l'aise, tu vas dans des bons endroits, t'es invité à droite, t'es invité à gauche, tu penses que tout est fait, en fait. Du coup, tu te reposes directement sur ce que t'as et ce qu'on te propose, mais tu réfléchis pas après. Tu penses pas après. Et en fait, ça va tellement vite, tu sais, la machine, elle tourne tellement vite. En fait, on t'a déjà oublié, frérot. Il y a déjà un mec qui fait deux fois, il fait mieux que toi, et il est plus beau que toi, il est habillé mieux que toi, il a plus de répartie que toi. Et je trouve qu'il y a une certaine pression aujourd'hui qui n'est pas celle d'avant. C'est-à-dire que le gars, voilà, qui perd, c'est vas-y, on l'oublie parce qu'il y a un mec qui fait mieux que lui.
Ouais.
Mais c'est normal qu'il pète les plombs. Et tu sais, aujourd'hui, t'es là, t'es TikTok, on scroll, et t'as accès à trop de choses, tu vois trop de trucs. Non, je suis très content d'avoir percé en 2010.
C'est pas il y a si longtemps que ça. Hein.
Ouais.
Mais c'est marrant, t'as dit un mec qui est plus beau que toi, qui fait plus de vues que toi. Il y a quelque chose aussi qui a changé par rapport au début, c'est ton rapport à la mode.
C'est vrai,
c'est quelque chose qui est arrivé, ouais, où t'es devenu une égérie mode,
ouais, pour
énormément de marques, et parfois des marques extrêmement prestigieuses. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est arrivé avec le temps? Est-ce que t'as toujours eu ça, un intérêt pour la sape, pour le style, ou c'est quelque chose qui est arrivé avec le temps aussi en prenant de l'âge, en rencontrant ce milieu-là?
Non, je pense que je vais être honnête. Hein.
Sois honnête.
Ouais, je vais être honnête.
Moi, je vais être honnête. Avant que tu sois honnête, pour moi, t'es un des mecs les plus stylés de mon Instagram.
Sérieux?
Ouais, mais tu l'es devenu. C'était pas le cas au début. Hein. En 2018, je te suivais.
Ouais, non,
mais là, j'avoue, il s'est passé quelque chose, j'avoue.
Ouais, non, 2010, j'avais pas trop de. Ma garde-robe, elle était.
C'est pas la même.
Non, elle était très très fine. Non, je pense que. En vrai, mon rapport à la mode, il a beaucoup évolué. Par rapport aux gens aussi que j'ai rencontrés,
ouais,
les endroits que j'ai fréquentés.
C'est quelque chose qui s'apprend, on t'éduque aussi à la mode. C'est un vrai.
J'ai découvert des choses. Même aujourd'hui, je découvre, je m'étonne, je me surprends à porter des choses, à tester des. Grâce à ma femme aussi, parce qu'elle a une vision un peu plus ouverte.
Ok,
que la
elle est intéressée par ça aussi.
Ouais. Ma femme et sa sœur, elles sont vraiment très à cheval sur la mode. Et elles me font aussi beaucoup de remarques sur des trucs, des fois, mes fashion faux pas, mes trucs.
Tu fais encore des erreurs?
Ouais. J'en fais encore, mais en fait c'est des erreurs pour les autres, mais moi je suis convaincu que c'est stylé et que ça marche, tu vois.
Okay.
Parce que en fait il y a des trucs que je faisais avant où tout le monde me disait non c'est pas ouf ces trucs. Aujourd'hui c'est la mode, tu vois. Je me rappelle un jour je suis allé sur Quotidien et j'avais une coupe genre mulet, et je m'étais fait terminer mais hardcore. Et aujourd'hui tu vois le mulet c'est devenu une des coupes les plus populaires. Mon rapport à la mode il a beaucoup changé, beaucoup évolué. Mais c'était pas un truc qui était là de base. Non, c'était pas là de base. Parce que c'est les trucs un peu.
Oui, t'as pas forcément grandi avec ça.
Ouais, c'est lointain. Tu vois des marques, des Louis Vuitton, des Dior. Tu te dis, mais c'est des marques. Est-ce que déjà je peux les porter déjà? Est-ce que j'ai les moyens déjà d'aller m'acheter un truc de cette marque-là? Et tu veux dire, travailler, collaborer avec ces marques-là? En fait, c'est trop loin pour y penser. Et quand ça arrive, tu t'adaptes. Hein.
Et puis à l'époque, c'était des marques aussi qui étaient loin des créateurs et des créatrices de contenu.
C'est vrai.
Maintenant, c'est plus fréquent.
Ouais.
Mais à l'époque, c'était pas aussi commun de les voir s'acoquiner avec des gens comme vous.
C'est quoi? C'est après le Covid, je crois que ça s'est un peu ouvert. Avec aussi Léna.
Bien sûr, j'allais dire Léna qui est importante.
Elle a fait un gros taf. Hein.
Ouais.
Léna, elle a fait un gros taf. Et après, maintenant, avec TikTok, t'as des créateurs spécialisés dans la mode. Et du coup, qui ouvrent un peu toute cette culture à des gens qui ne sont pas forcément adeptes de ça. Mmh.
Bon, je pense qu'on écoute un morceau. Alors, le film N121, c'est sur un bus de nuit.
Ouais.
J'ai cherché un morceau qui parlerait d'un bus de nuit. Je n'ai pas vraiment trouvé de morceau parfait. Donc, j'ai changé un peu le thème.
Okay.
J'ai mis un morceau qui parle d'un train de nuit. C'est le train de minuit des Sages-Poètes de la rue. On repart en 1998, mais c'est mon groupe de rap préféré.
Ouais.
C'est aussi un prétexte pour écouter les Sages-Poètes de la rue, j'avoue. Donc, on n'est pas dans un bus, on est dans un train. Mais tu vas voir, si tu écoutes le morceau, l'ambiance, c'est un peu la même quand même de celle du Noctilien. On écoute ça, les Sages-Poètes de la rue, le train de minuit, morceau sorti en 1998.
Le train de minuit, direction Poncef. Yo, dans le train de minuit, des gens de toutes sortes, des noirs, des blancs, mais peu importe, pessimiste ou optimiste. Chacun fait son chemin sans calculer ce bon guitariste qui joue encore et encore.
Encore et encore.
Qui joue encore et encore.
Encore et encore.
Qui joue encore et encore.
Yodan prend le mic et donne-lui une pièce d'or.
Minuit, dans Paris souveraine, un train nous entraîne à travers de ferroviaires, galeries souterraines, des lumières éclairent les murs des tunnels aux parois sales. Dans le wagon règne un silence presque paroissial. Alors que dehors, au rythme des cliquetis surgissent des graffitis couleur or. Tu vexox et mélopé, on est un beau soubien. Trois négropolitains dans le métropolitain. La file indienne mécanique s'immobilise à nouveau. Toutes sortes de gens rentrent, mais nos regards accrochent.
proche de Joe, guitariste traînant un ampli. Et quand les portes se sont fermées, un air a jailli.
Je que c'est bon, dans le train d'entendre du son anxiété de ceux qui aiment ce genre de relaxation. Car si on n'avait pas ça, ce serait le stress total. Le messie des stations n'a pas l'outil, ça sert total. Mais juste une guitare avec qui joue un air que j'aime. Même au mitard, cette mélodie calmeur et ta haine, elle faisait. Dans le train de minuit, des gens de toutes sortes, des noirs, des blancs, mais peu importe, pessimiste ou optimiste. Chacun fait son chemin sans calculer ce bon guitariste qui joue encore et encore. Qui joue encore et encore.
Encore et encore.
Qui joue encore et encore.
Mélophile, on prend le mic, file-lui une pièce d'or. On attendait sur le quai, direction Pont-de-Sèvres. Le trafic était léger, non, ce n'était pas un rêve. Il est entré après moi, les yeux remplis de tristesse. J'aurais voulu faire quelque chose pour apaiser sa peine. Les gens n'avaient pas un regard pour lui. Il jouait de la guitare afin de gagner sa vie. Je me rappelle de ses accords qui flottaient dans l'espace. La mélodie me capte, c'était vraiment vivace. J'ai encore ce brin de musique au fond de mon cœur. Écoute un peu comme je l'installe dans mon séquenceur. On ajoute les paroles, Zox frappe la batterie. L'ambiance change, ce morceau on lui donne une vie. Notre inspiration à la base vient de la rue, avec ses bruits de la nature inattendus. Mais ce soir c'est dans le métro qu'elle se réfugie. J'aurais aimé parler à cet homme du train de minuit.
Moi il y a dans le train de minuit des gens de toutes sortes, des noirs, des blancs, mais peu importe, pessimiste ou optimiste. Chacun fait son chemin sans calculer ce bon guitariste qui joue encore et encore.
Encore et encore.
Qui joue encore et encore.
Encore et encore.
Qui joue encore et encore.
Et le Zox, il prend le mic, il lui fait une pièce d'or.
87, l'année où il sort du mitard, avec cette unique richesse, sa guitare, la nuit tard. Il traîne les bars et sa baisse pour jouer, puis part avec la haine au cœur quand sa fierté est bafouée. Il est comme vous et moi, à base de plein de rêves. Dernier métro preneur, il gratte, même quand il y a grève. Pathétique, c'est ça, sont vieilles comme les textes. Mais les textes, ils ne font pas le pur style de mec, Bill.
Le voir comme ça, jouer, style, rien à battre du monde, me fait penser l'espace d'une seconde à moi dans le parc, quelques années en arrière, gueulant mes rats, rêvant d'une grande carrière. Maintenant nous sommes en piste, Boulogne lyriciste. On souhaite bonne chance à ce bon guitariste qui jouait.
Il joue encore et encore.
Encore et encore.
Il joue encore et encore.
Encore et encore.
Il joue encore et encore. Il joue encore et encore. Chacun fait son chemin sans calculer ce bon guitariste qui joue encore et encore.
Encore et encore.
Qui joue encore et encore.
Encore et encore.
Qui joue encore et encore.
C'était les Sages-Poètes de la rue avec le train de minuit, morceau présent sur l'album Jusqu'à l'amour.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Regarde, t'as aimé ou pas ce petit revival boom bap 90 jazzy?
J'ai beaucoup aimé, ça m'a rappelé mes souvenirs. Moi j'ai eu ma période, comme je t'ai dit, IAM, tout ça là, mais c'était au lycée moi.
Pourtant c'était pas ton époque. T'as écouté des morceaux et des albums sortis un peu avant.
Okay. Parce qu'en fait je les ai trouvés trop forts les mecs.
Ok.
Technique, même dans ce qu'ils racontaient, tu sais, c'était beau en fait.
Ouais. Alors on l'a dit, le film ça se passe dans un bus. Moi quand je pense bus au cinéma, je pense à un film.
Ouais.
C'est Speed. Mm-hmm. Est-ce que tu l'as vu ou pas?
Speed, non, malheureusement, je ne l'ai pas vu. Mais il y a eu beaucoup de comparaisons avec ce film-là.
Ouais.
Après, c'est avec Keanu Reeves, donc je pense que c'est un truc vraiment action, non?
Laisse-moi t'en parler un petit peu. C'est effectivement de l'action. Et en fait, ça se passe, c'est un bus de ville, tu vois. Mm-hmm. Pour le coup, ça se passe la journée, contrairement à vous.
Okay.
Et ça se passe à Los Angeles. Et il y a une règle absurde mais géniale. Si le bus passe sous les 80 km/h, il explose. C'est des concepts américains, ouais. C'est des concepts américains. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, et c'est pour ça que c'est efficace. On est en 1994, et le film va devenir l'un des plus gros chocs de la décennie. Un concept limpide, une tension constante, et un duo de stars qui naît sous nos yeux.
Question-réponse, champion. Une bombe à bord d'un bus. S'il atteint la vitesse de 80 km/h, la bombe est armée. Si ensuite il ralentit, elle explose. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Speed. Passez à la vitesse maximum.
C'est les bandes annonces de l'époque, hein, avec les voix de l'époque. Est-ce que le pitch il te fait envie ou pas?
Bah, en vrai, faut un bon pitch comme ça pour un film, tu vois. Ouais. C'est ce qui donne envie de regarder, tu vois. C'est aujourd'hui avec tous les trucs qui sortent sur Netflix, sur les plateformes. Pourquoi t'as envie de regarder un film? Parce que en 2-3 phrases, t'as compris dans quoi t'étais.
Ouais, bah c'est exactement ça. Et donc là, le réalisateur, c'est Yann de Bont, qui c'est son premier film en tant que réalisateur. Avant, c'est un mec qui est connu comme directeur de la photo. Et puis, il y a un casting qui fait tout. Il y a Keanu Reeves, donc en flic de Los Angeles. Et il y a Sandra Bullock, qui joue Annie, qui à l'époque n'est pas connue du tout, hein, qui est une passagère qui se retrouve à conduire un bus lancé à pleine vitesse. Et puis, il y a Dennis Hopper, qui est un acteur qui est très connu, hein, qu'on connaît depuis les années 70, et qui joue un méchant assez terrifiant. Et ce qui est fou, c'est que Speed donne l'impression d'être dans un film où tout se passe dans le bus, mais en vrai, le scénario construit d'abord le héros avec un morceau d'anthologie, une séquence d'un ascenseur piégé au tout début du film, puis avec un métro à la fin. Et d'ailleurs, dans l'écriture initiale, le film devait être encore plus minimal, beaucoup plus centré sur le bus, et le titre de travail était Minimum Speed, avant de devenir Speed. Voilà, ça a changé au fur et à mesure. Et ensuite, c'est là que le film est génial, c'est que tout se passe vraiment autour du bus. Comment on fait un virage sans perdre de la vitesse? Parce que si on perd de la vitesse, ça explose. Comment on gère les passagers paniqués? Comment on contourne la police? Et donc, quand Speed sort en 1994, il y a un truc qui est très clair pour le public. Le film ne révèle pas seulement un concept ou un duo, il révèle une star, et surtout Sandra Bullock, je le disais, qui est vraiment inconnue. Là où Keanu Reeves avait fait déjà des films à l'époque comme Point Break ou même Dracula, et elle devient vraiment, elle est propulsée au centre d'Hollywood après ce film. Et puis surtout, il y a une scène, et alors là, ça justifie à elle seule que tu regardes le film, c'est le saut du bus au-dessus d'un tronçon d'autoroute. C'est-à-dire qu'il y a une autoroute qui est cassée en deux, et le bus va sauter. Évidemment, ils vont réussir.
Purée.
Et à ton avis, est-ce qu'ils l'ont vraiment fait ou pas, cette scène?
Non, je pense pas.
Eh bien si. Tout le monde pensait que c'était fait en effets spéciaux. Et en fait, le saut a été fait avec un bus réellement lancé sur une rampe, et l'équipe a ensuite utilisé des effets visuels pour créer l'illusion du vide dans l'autoroute. Voilà. Et c'est ce qui a aussi rendu le film assez mythique.
Mais les gens étaient dans le bus?
Non, il n'y avait pas de gens dans le bus. Okay. Il y avait un cascadeur, par contre, qui a fait un saut avec le bus. Tu vois, c'est aussi ce qui change avec aujourd'hui, où on fait maintenant beaucoup de choses en effets spéciaux, tu vois.
Ouais.
Et à l'époque, il y avait moins de moyens là-dessus. Donc les gens faisaient vraiment les cascades. Et le film a tellement marché qu'il y a même eu un Speed 2 après. Et c'était pas dans un bus, c'était sur un bateau.
Et il était bien?
Nul.
Okay.
Ça a été un gros échec, le 2. D'ailleurs, Keanu Reeves avait pas aimé le scénario, donc il a pas rempilé pour le 2. Est-ce que tu te verrais, toi, faire un film d'action?
Un film d'action?
Ouais. On n'a pas trop ça en France, il y en a un petit peu.
Ouais.
Je pense à Alban Lenoir, qui fait notamment des films, tu parlais sur Netflix. Les Balles Perdues, je crois que c'est ça, la série des Balles Perdues.
Ouais, c'est ça, Balles Perdues.
Est-ce que tu te verrais dans un film comme ça, toi?
Je sais pas. En fait, ce qui est excitant dans les films d'action, c'est tu dois te préparer, tu vois. Tu dois te préparer, tu dois apprendre des techniques de combat, même physiquement, tu dois être affûté et tout. C'est ça, je pense, qui est excitant. Mais après, faire un film d'action, en vrai, s'il y en a un vraiment, vraiment bien, avec un vrai, je sais pas, parce qu'en souvent, les films d'action, ça reste en surface un petit peu. Tu vois,
c'est pas un genre, toi, que tu aimes spécialement, c'est parce que tu regardes beaucoup au cinéma.
Non, c'est pas trop ce que je regarde, moi, scientifique. Moi, je suis plus thriller, moi. C'est comme t'as dit, t'as vu juste les petits trucs concepts comme ça, avec 2-3 phrases, t'as compris.
C'est quoi un de tes thrillers que tu préférais? Un film comme ça que t'aimes bien regarder?
Un film comme ça que j'aime bien regarder?
Moi, je pense à Seven, quand je pense à Thriller, je sais pas si c'est des films que t'as...
Ouais, mais attends, mais y a quoi que j'ai vu là récemment? Non, mais par exemple, un film que j'ai vu au cinéma, que j'ai bien aimé, tu vois, Trap. Tu l'as vu, Trap, ou pas?
Trap, j'ai bien aimé, de Shyamalan, avec Josh Hartnett.
Ouais.
Où en fait, le concept, c'est il emmène sa fille à un concert.
C'est ça.
Et en fait, il y a un tueur en série dans le concert. Et on comprend, c'est pas un spoil, on comprend très vite que c'est lui le tueur en série.
Et comment il va s'en sortir.
Voilà, exactement.
Tous les trucs comme ça. Après, moi, je trouve que les meilleurs dans ça, vraiment, c'est les Coréens.
Ah bah oui.
Dans les thrillers, c'est les Coréens, sont trop forts. Les États-Unis aussi, bien sûr.
Ouais, mais c'est vrai que de plus en plus, ouais, complètement. Bon, Just Riyad est avec nous jusque 23h. Tu viens de mentionner quelque chose d'intéressant, et je voulais t'en parler, c'est ton rapport à la Corée du Sud. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui... Enfin, un pays, plutôt que quelque chose, un pays, une culture, qui t'attire beaucoup. Même, tu sais, dans l'aspect visuel, etc., j'ai l'impression que c'est quelque chose qui t'attire. Est-ce que ça a toujours été le cas, ou est-ce que ça aussi, c'est arrivé récemment?
Franchement, c'est pareil, hein. C'est arrivé un peu comme ça, avec le temps.
Avec les séries aussi, peut-être. Enfin, maintenant, c'est même une culture qui est beaucoup plus présente chez nous, avec la musique.
C'est vrai qu'ils ont beaucoup d'influence aujourd'hui sur... sur tous les aspects.
Ouais,
hein.
Complètement.
La mode, le cinéma.
La musique.
La musique, la nourriture aussi.
Ouais, c'est vrai.
La nourriture, le nombre de restos coréens qui est ouvert. Mais moi, c'est plus, je pense, l'Asie, le Japon aussi, tu vois. Mais la Corée, c'était. Ah, je pense que ça a été un tournant aussi, hein, quand je suis parti là-bas.
J'ai t'es découvert t'es allé combien de fois là-bas? Une fois?
Ah non, la Corée, oh là là.
Oui, tu y vas souvent. Okay.
Ouais, j'y vais souvent, hein. Franchement, okay. des fois, je m'y retrouve deux fois par an là-bas, tu vois.
Okay. À Séoul ou même pas uniquement?
Séoul est un peu... Mais plus principalement, ouais, Séoul. Ouais. Plus principalement Séoul.
Ouais.
Non, mais c'est arrivé comme ça. De base, je voulais aller au Japon, je crois que c'était après le Covid, mais je crois qu'il y avait un truc, c'était pas ouvert à 100%, et au final, je me suis retrouvé à aller en Corée.
Okay.
C'était pas prévu à la base, tu vois, je suis arrivé là-bas, j'étais... m'a choqué. Après, j'ai découvert la K-pop, après les autres types de musique coréenne et la culture, les... Non, c'est...
Ouais.
Ça a changé un truc dans ma vie, pour de vrai.
Quand on est exposé comme toi, on reçoit beaucoup d'amour sur les réseaux, on reçoit aussi beaucoup de haine.
Ça arrive.
Et ça, c'est quelque chose que tu as confronté. Ouais. T'avais fait un programme avec Brut à l'époque. Pourquoi c'était important pour toi de voir tes haters en face?
Parce que, en fait, je trouvais ça intéressant. Pour le coup, parce que c'est cette petite voix qui te dit « Purée, mais ce mec-là qui a commenté ou qui a envoyé le message, j'aimerais bien qu'il soit en face de moi et qu'il me le répète et qu'il me le dise, tu vois. » Et j'ai trouvé ça drôle aussi, hein, quand même drôle, parce que souvent, ces gens-là, ils répètent pas exactement ce qu'ils ont écrit, ils assument bah, totalement pas, tu vois. Mais après, c'est bien d'avoir une discussion pour comprendre. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui t'aime pas viscéralement?
Oui. Ou est-ce que c'est pas juste une blague pour lui, qui n'a pas vraiment d'importance dans sa tête, mais qui, toi, peut te toucher et te faire du mal parce que tu reçois ça? C'est souvent ça, non, j'ai l'impression.
La majorité des cas, ouais. C'est ça. Mais je suis jamais tombé sur quelqu'un qui me détestait du plus profond de son âme. Parce que je pense que, pour ça, il faut avoir fait quelque chose de vraiment grave, tu vois.
Ouais.
Mais non, pour l'instant, je l'ai fait... Parce que ça me faisait aussi marrer de le faire et de montrer aussi, de décristalliser un peu ce truc, démystifier le hater. En fait, à quoi ça ressemble un hater, en fait, au final? Ça peut ressembler à tout et à rien, tu vois. Et en fait, quand je les ai confrontés, bah, j'ai juste vu des gars qui étaient gentils. Et peut-être des gens, des fois, où j'arrivais pas à comprendre leur façon de penser, tu vois.
D'ailleurs, à la fin, tu t'entends bien avec eux. En fait, souvent, vous repartez, vous êtes presque potes,
c'est
en fait.
C'est ça, tu vois. Mais il y a des choses que je comprends pas. Tu sais, je me rappelle, chez une meuf, là, je me souviens, une meuf, elle était matrixée. Elle était vraiment matrixée. Et en fait, même en parlant avec elle, j'arrivais pas à comprendre sa façon de réfléchir et tout, mais il y a des fois, c'est comme ça, tu vois.
Est-ce qu'il y a déjà eu des critiques qui t'ont vraiment fait mal? C'est arrivé au début, peut-être?
Qui m'ont vraiment impacté? Non.
T'as réussi à mettre de la distance assez rapidement avec ça?
Ouais. Parce qu'en vrai, je me dis... Quand j'ai vu que dans la vraie vie, tout allait bien, et que des fois, bah... Ça peut t'arriver d'avoir une petite sauce ou un truc, ou parce qu'il y a une tendance un peu sur toi, les gens veulent délirer
ça,
un petit peu.
Ça, c'est l'histoire de n'importe quelle personne un peu exposée sur les réseaux. Tu vas prendre une sauce à un moment, plus ou moins grande, mais ça va arriver.
Ouais. En fait, tant que t'as pas fait de dinguerie, ça va.
Ouais.
Ouais, faut juste pas faire de dinguerie. Faut juste pas faire de trucs irréversibles et continuer, t'as vu, ton petit chemin, naviguer un petit peu. De toute façon, la vie d'un créateur de contenu, c'est ça. C'est que, voilà, t'es là, t'es sur Internet, fais tes trucs. Navigue, fais tes contenus, fais pas trop de vagues. Parce que si t'en fais trop, tu vas passer sur tu vas être trop exposé, les radars et tout. Mais c'est comme ça. Il faut pas tout le temps vouloir chercher la lumière. C'est pour ça que, t'as vu ce que tu disais tout à l'heure, le truc de toujours. Ce truc de collectif, de gens, pas se mettre tout le temps soi en avant. Bah, en fait, ça me permet moi aussi de me protéger.
Ouais.
D'un autre côté, où je me
dis. Pas tout assumer tout seul.
Voilà, c'est ça.
Riyad, est-ce que tu es le Bad Bunny français?
Le Bad Bunny français. En vrai, tu sais que j'ai commencé à l'écouter pour ça, moi, Bad Bunny.
Pourquoi?
Parce qu'en fait, les gens commençaient à me dire, ouais, tu ressembles à Bad Bunny. Après, je suis parti, regardez, et j'ai écouté, j'ai pu dire, il fait de la bonne musique, lui.
C'est pas mal, ouais. C'est plutôt pas mal,
Il fait de la bonne musique. Et ouais, franchement, ça me va, moi, Bad Bunny. Hein. Ça me va.
Bon, j'en parle parce qu'on va écouter le dernier morceau de Bad Bunny et parce qu'il sera bientôt à l'affiche du Super Bowl. D'ailleurs, on aura une émission qui sera préparée avec Camille Diao qu'on animera, qui sera diffusée le jour du Super Bowl. Est-ce que tu attends sa prestation au Super Bowl?
Bad Bunny, tu sais, je vais te raconter un truc. Hein.
Dis-moi.
Avant le Covid, Bad Bunny, il devait faire un festival, je sais plus, c'était où
Un
festival en France, ouais. Mais c'était un gros truc, hein. Il venait faire un festival et tout, et on parlait avec les gens qui le représentaient en France, tu vois.
Ok.
La maison de disques et tout et tout. Il me disait, purée, ça pourrait être marrant qu'en fait, tu montes... Parce qu'en fait, c'était la tendance, là, que genre, moi, Bad Bunny, etc. Ouais. Ils m'ont dit, genre, tu montes sur scène à sa place au début et tout, et après, lui, il arrive, etc., tu vois. Et après, il y a le Covid qui a tout gâché.
Peut-être que vous pouvez faire ça au Super Bowl.
Impossible.
Parce que c'est une des surprises du Super Bowl.
Impossible. Bon, surprise du Super Bowl, non. Mais... Ça aurait été pas mal.
Ça aurait été fou.
Ah ouais, ça aurait été fou.
Bon, on s'écoute en tout cas le dernier morceau de Bad Bunny.
Ah, hoy te voy a buscar.
C'était un morceau du Just Dread portoricain, on peut le dire. Dernier morceau de Bad Bunny qui sera à l'affiche du prochain, enfin du prochain halftime show du Super Bowl.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Just Dread, c'est l'heure des recommandations et tu m'as envoyé un film.
Ouais, c'est ça.
Un film qui, je crois, est très important pour toi. C'est Le Message. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il est. Je crois que c'est un film de. Même que tu regardes à la maison depuis tout petit, quoi. C'est un film de familial.
Presque. C'est ça, je crois que c'est vraiment un des premiers films que j'ai vu avec mes parents.
Ouais.
Parce qu'en général, tu regardes pas de films avec tes parents, tu vois. Enfin, moi, c'était très très rare.
Ouais.
Mais ce film-là, je me rappelle, on l'avait en DVD et on le regardait des 2-3 fois. En fait, dès qu'il y avait une période un peu, le ramadan, tu sais, c'était l'Aïd et tout, le soir, on le mettait comme ça. Et on le regardait, il dure longtemps, hein.
Ouais, c'est un film donc de Mustapha Akkad. Est-ce que tu peux nous raconter de quoi parle le film justement?
Mais en gros, c'est sur l'histoire du prophète.
Du prophète,
tu vois, Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Et moi, quand je suis petit, quand je regarde ça, moi, je me dis que c'est un film. Ça veut dire que tu sais, mes parents qui me racontent toute l'histoire derrière, que c'est important pour nous, que c'est grâce à ça qu'il y a eu, tu sais, l'arrivée de, enfin, tu sais, que l'islam s'est développé, etc. Ouais. Et avec le recul, je me dis, purée, ils ont fait un film comme ça. Et ça date, c'était quoi? C'était en
72, je crois, si je ne dis pas de bêtises.
72, ou dans les années 70, quoi.
70, exactement, ouais.
Et ce film-là qui a traversé des époques, des générations, et que je me retrouve à le regarder quand même.
Tu le revois encore aujourd'hui?
Encore aujourd'hui.
Et tu le trouves toujours aussi bien?
Je le connais...
Tu le
connais par cœur,
tu vois. Oui, c'est ça.
Mais ça fait du bien de le revoir. Et ouais, c'est des films comme ça qui servent à quelque chose et qui nous permettent d'avoir une trace, tu vois.
Ouais.
De notre culture, d'où on vient et ce qu'on est aujourd'hui, tu vois.
Justement, toi, t'as cette double culture aussi.
Ouais.
T'es né en Algérie. Tu vis ici. Qu'est-ce que tes parents aussi t'ont peut-être laissé de cette double culture-là? Est-ce que dès petit, t'as été éduqué comme ça aussi, avec aussi la culture algérienne, l'islam? Enfin, ça a toujours été fait partie de toi, tout ça, justement?
Ouais, franchement, moi, toujours. Hein. Toujours. Hein. Ouais. Depuis petit, c'est ça, en fait, qui fait... mon éducation. En fait, mon éducation, c'était vraiment ça de base, mais ça englobe tellement de choses, tu vois. En fait, quand tu grandis avec la spiritualité, en fait, tu dois être quelqu'un de bon, quelqu'un de gentil, tu dois être généreux. En fait, Ça fait toi juste quelqu'un de bien.
Ça donne un code de morale presque, ouais, ça, surtout,
c'est
essentiellement.
Ça. C'est ça.
Indépendamment, bien sûr, de ta foi, et ça, c'est quelque chose qui est personnel, mais ouais, c'est ça aussi.
À tous les âges, dans toute situation, et tu traites après tout ce qui se passe dans ta vie, après, tu le traites avec cette morale-là et cette éducation que mes parents m'ont donnée. Hein. Ah ouais.
C'est encore aujourd'hui, quel est ton rapport aujourd'hui, même avec l'Algérie aujourd'hui? Est-ce que t'y vas régulièrement? Est-ce que tu aimerais y aller plus souvent? Quel rapport t'as aussi avec la communauté que t'as là? Parce que j'imagine que tu reçois aussi des messages de gens en Algérie.
En Algérie, ça fait un moment que j'y suis pas allé.
Ouais.
Ça fait un moment... Là, il y a mon passeport qu'il faut que je récupère à Créteil.
Tu vois, ça, c'est toujours... je suis passé par là il y a quelques temps pour refaire mon passeport. C'est des journées qui peuvent être très longues.
Ça prend du temps, des fois ça des mois temps. Et tout. Tu vois.
Ouais, complètement. C'est pas des fois des mois.
Ouais,
c'est
des mois.
Au mieux des mois, il faut le dire. Voilà, mais...
Non, l'Algérie, ouais, j'aimerais y retourner parce que depuis... ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps. Ça doit faire plus de 5 ans que je suis pas allé en Algérie.
Ouais.
Mes parents, ils y sont retournés et tout. Mais moi, là, ouais, il faut vraiment que j'y retourne. Parce que moi, en vrai... L'Algérie, je connais que la ville où je suis né.
Ouais.
Donc, tu vois,
t'as pas forcément encore pris le temps de...
Pas du tout. Et ça, c'est un de mes gros regrets.
Après, t'as le temps, tu peux encore le faire.
Bien sûr, mais j'ai envie de le faire, là, tu vois.
Est-ce qu'il faut pas le faire sur ta chaîne YouTube?
C'est ce que, justement, je compte faire.
Avec je sais pas moi, Asie au choix.
À qui?
Zizou, avec Zizou.
Avec Zizou.
Avec Zizou. C'est ce contenu-là qu'on veut voir.
Ça va être chaud. Hein.
Ce sera incroyable.
Ça va être chaud, parce qu'en plus, lui, il est kabyle.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il faudra que j'aille en Kabylie.
Ah, tu fais tout.
Ah non, il a pas le temps Zizou, de faire le tour de l'Algérie.
Est-ce que t'as, parce que justement, j'ai ça parce que t'as des sur ta chaîne YouTube qui marche très bien, je le rappelle. Tu fais des 24 heures ou tout avec des personnes. Est-ce que t'as un invité ou une invitée
all
de
time.
Rêve? Ouais, all time, de rêve. Bad Bunny, ça peut être Bad Bunny aussi.
Bad Bunny, ça peut être cool.
Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu rêves d'avoir dans ce concept? Zizou, c'est bien aussi. Hein.
En fait, Zizou, c'est bien, mais t'as vu, c'est quand même Monsieur Zinedine Zidane, donc il y a une certaine...
Est-ce que tu serais à l'aise avec lui?
Non, justement.
C'est ça, moi je me dis toujours ça, on me dit, est-ce que tu rêves d'interviewer Zidane? Je crois pas. Hein.
Tu vois, il y a une certaine distance que j'installe, moi, tu vois, avec lui, par respect.
Ouais, je suis d'accord.
Et j'oserais pas lui poser toutes les questions que j'ai en tête, mais un invité all-time.
Ou Kylian, Mbappé à Madrid. C'est
Mbappé.
Ta génération, je serais à l'aise avec lui.
Ouais, moi, après, est-ce que lui serait à l'aise?
Il serait peut-être dans le contrôle.
Tu vois, il serait quand même dans le contrôle. Et moi j'aime les gens qui... pas qui se lâchent, mais qui sont... Tu sais, comme là, on discute, toi et moi, genre, vraiment, on se prend pas la tête. On dit pas dinguerie, bien sûr.
Bien sûr.
Mais un invité all time, voilà. En fait, il faudrait un mec qui ait vécu, en fait, qui ait traversé les époques. Après, t'as dit Zidane aussi.
C'est Zidane.
Ouais, c'est Zidane, en vrai.
Bon, Riyad, cette question, elle était compliquée.
Ouais.
Mais j'ai une autre question compliquée pour toi. C'est la question qui tue. Si tu dois choisir entre la vie de comédien et la vie de créateur de contenu, tu choisis quoi?
J'ai commencé par la création de contenu, c'est un truc qui me fera toujours kiffer. Mais j'ai l'impression que sur le long terme, être comédien, être acteur, ça peut être le meilleur choix. Mais après, créateur de contenu, en fait, tu peux tellement faire tout ce que tu veux.
Oui, t'as une liberté
et t'es tellement libre aussi. Non, je pense. Oh, ok, attends.
Est-ce que t'as du mal à faire des choix dans la vie? Est-ce que t'es indécis?
Ah, mais des fois, en fait, le truc, c'est que... Tu sais, quand tu fais un tournage de film, ça te prend beaucoup de temps.
Ouais.
Et t'as envie de t'investir à 100%. Moi, je fais jamais les choses à moitié. Donc, si tu me dis, je suis 6 semaines dans un bus, je suis 6 semaines dans un bus, et il n'y a pas de projet vidéo en même temps, un truc, tu vois. Mais pour ma liberté... Pour ma santé mentale. Non, c'est dur. Après, moi, je te dirais vraiment, être comédien, être acteur, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Tu peux participer à des projets qui sont plus grands, plus forts. En fait, mais être créateur de contenu aujourd'hui, ça n'a tellement pas de limite.
Oui, c'est ça, en fait. Ça englobe tellement de choses, en fait.
Oui.
Ouais. Donc, tu choisis, t'opterais.
En fait, tu peux être créateur de contenu et comédien, et tu vois, et faire des films.
Ah non, t'as plus le droit de faire des films. Non.
J'ai plus le droit de faire des
films.
C'est
que YouTube. C'est que YouTube, TikTok, les réseaux, si tu veux, mais il n'y a plus de cinéma.
Ok. Ouais, non, je te dirais quand même créateur de contenu.
Je sens que c'est important pour toi, en fait. C'est, quelque chose...
c'est la base.
Ouais.
C'est la base.
Sur ce, donc, on rappelle, hein, aujourd'hui, tu viens pour ce film, N121, Bus de nuit. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris? Est-ce qu'il y a un enseignement que tu tires de ce tournage?
Tu sais qu'il y a un truc, vraiment, dans le film, et ça, Mourad, je lui ai dit, et plusieurs fois, j'ai eu cette discussion avec lui, Mourad Aïssaoui, le réalisateur.
Ouais.
Il y a des jours où j'étais là, sur le tournage, et j'avais pas l'impression... Genre, parce que moi, bon, le premier film que j'avais fait à La Belle Étoile, j'étais, on va dire, entre guillemets, hein, le personnage principal, et j'étais souvent seul.
Oui.
Et tu sais, j'étais là sur tous les plans, toutes les prises.
Parfait.
Là, sur ce film-là, des fois, j'étais pas sur tous les plans, pas toutes les prises. Et je me suis dit, mais en fait, là, je sers à quoi aujourd'hui ? Tu sais, je me remettais en question, mais j'allais le voir, je lui demandais, là, sur cette scène-là, est-ce que vraiment, genre, je suis là, je sers à quoi ? Je comprends pas, j'arrive pas à me situer là dans le film. T'as vu, dans le scénario, en fait, on est en train de faire le même film et tout. Il me dit, hey, t'inquiète pas. Il me dit, là, je sais très bien ce que tu penses, là, ce que t'as dans ta tête, mais j'ai le film en tête. Je sais à quel moment tu vas être, où tu vas être, etc. Donc, je me suis beaucoup remis en question. Et je pense que c'est plus un lâcher prise sur certaines situations et faire confiance.
Ouais, c'est ça. Et tout ne dépend pas que de toi. En
fait. Exactement. Bon. Et ça te facilite tellement la vie. En fait, de penser que tout ne dépend pas que de toi, en fait, tu respires.
Ouais.
Tu respires et t'as moins de pression sur les épaules, tu vois.
Bon, en tout cas, tu es là pour le film N121, Bus de nuit. Allez le voir, vraiment. Allez le voir, c'est un vrai thriller.
Ouais.
Un vrai thriller, un vrai huis clos, comme il y en a très peu en France. Donc c'est important d'aller le voir et de le soutenir. Merci beaucoup, Jezria, d'être venu aujourd'hui, d'avoir pris le temps de parler ici dans cette émission. Et merci à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de cette émission, qui était préparée par Alice Alacour et Edouane Tella, réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. La technique ce soir, c'était Loïs Moreau et Jérôme Ragano. Merci aux équipes web et vidéo. Lundi, on sera en direct avec Tequila Tex pour découvrir, redécouvrir nos émissions. Abonnez-vous sur l'application Radio France.